est blanche.
40 nuances de Sista. Les Sista du Next 40, comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Solène Etienne, cofondatrice du Brain Studio Feuille Blanche.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les Sista du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Son bro, celui qui a donné son nom pour cette émission, c'est Clément Del Pirou, le président d'IAD Group. Il a cité son nom après quelques notes d'Aretha Franklin, et il n'a pas tari d'éloge sur notre invité du jour, déclarant qu'il voulait tirer son chapeau pour la formidable aventure entrepreneuriale, humaine et éditoriale qu'elle mène avec son associée Mélissa Bounoua. Selon lui, elles ont réussi sur un contenu, des sujets, des angles qui sont exigeants, à construire une équipe, une réussite, des marques fortes et à avoir de l'impact. Le métier de notre invité du jour, on l'adore chez Feuille Blanche, c'est de raconter des histoires, mais pas que. Et aujourd'hui, Charlotte Pudlowski va nous raconter son histoire. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté d'être à notre micro.
Avec plaisir.
Alors Charlotte, tu es la cofondatrice de Louis Média, tu es aussi journaliste et autrice et tu as été une des premières en France finalement à adopter le média podcast, je crois dès 2016.
Absolument.
Alors comment t'es tombée dans cette marmite de l'audio ?
En fait moi pendant mes études de journalisme, j'ai fait un semestre à l'étranger aux États-Unis, aux universités du Missouri. Et j'ai découvert les podcasts à ce moment-là, à la fois le replay, parce que j'écoutais énormément la radio, Radio France, quand j'étais à Paris. Et donc, j'écoutais en replay les émissions qui me manquaient quand j'étais dans le Missouri. Et à la fois la radio américaine et le storytelling audio à l'américaine, en découvrant des émissions comme This American Life et Radio Lab, qui sont encore parmi les émissions les plus écoutées aux États-Unis aujourd'hui. Et je me suis prise de passion à ce moment-là pour ce média-là, dont je découvrais... à la fois le storytelling, à la fois le rapport très intime aux voix, et c'était un peu toute la tradition du journalisme littéraire américain façon le New Yorker, mais en son. Et j'avais pas encore fini ma psychanalyse à ce moment-là, mais ça allait me parler énormément par rapport à mes obsessions sur le rapport au langage, le rapport à la parole, le rapport au silence. J'en ai pas fait pendant très longtemps, puisque j'ai travaillé sur le web pendant un certain nombre d'années. Et en 2016, j'ai vu une opportunité pour créer les podcasts de Slate.fr, et à ce moment-là, c'est devenu mon métier.
Alors, on y reviendra après, mais avant, j'avais une question un peu générale, mais je voulais savoir en quoi l'audio était puissant, selon toi.
De plein de manières différentes, mais je pense que c'est ce lien intime qu'on a aux voix. Je pense qu'il y a ce... Et d'ailleurs, la radio, c'est le média dans lequel les gens ont le plus confiance, loin devant... Internet et la télévision, mais aussi loin devant la presse papier. Et je pense que c'est parce que, même si ça va être de moins en moins vrai avec les intelligences artificielles qui reproduisent extrêmement bien les voix, et dont c'est parfois difficile de distinguer quand c'est des voix humaines ou des voix artificielles. Mais en tout cas, historiquement, on a le sentiment d'avoir un lien très particulier et un sentiment d'authenticité avec cette incarnation-là. Et puis c'est aussi la manière ancestrale de raconter des histoires. On en a eu quand on était petit, c'était des aujourd'hui, ça va être sur des petites box audio ou différents médias. Mais on a appris, on a grandi en écoutant des histoires, en écoutant nos parents nous raconter des histoires, en s'en racontant entre enfants. Et cette manière ancestrale de raconter des histoires, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le podcast et qui, moi, me touche très fort.
Alors, pour ceux qui et celles qui ne seraient pas connectées, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots ce qu'est Louis Média ?
Alors, Louis Média, c'est un studio de podcast. On a un peu deux pieds, une partie média avec une dizaine de programmes dont l'ADN, c'est de faire ressentir le monde. Donc, c'est des programmes qui sont dans le storytelling, dans la narration, avec des personnages très émotionnels. Donc, ça, c'est pour la partie faire ressentir. Et pour la partie le monde, c'est très ancré dans l'époque, dans la société. Donc, on traite de sujets contemporains divers. Et donc, sur l'ensemble de ces émissions-là, on a à peu près 1 million d'écoutes par mois. Un peu plus. Katia, mon associé et notre DG, dirait 1,3 million, je crois. Et donc sur cette partie média, c'est à la fois notre laboratoire, là où on expérimente un certain nombre de choses, c'est la raison d'être de Louis au départ, et c'est aussi notre vitrine pour les partenaires pour qui on produit, et ça c'est le deuxième pied de Louis, c'est la partie agence, avec laquelle on produit aussi bien pour des plateformes, type Spotify, Storytel, etc., d'autres médias, comme on a produit pour Canal+, on produit encore pour Madame Figaro, on a produit pour Slate pendant longtemps quand j'ai quitté la rédaction en chef et que j'ai cofondé Louis. On produit pour des marques comme on va produire pour Crédit Agricole, pour TIR, pour le Cercle des Économies, donc pour voilà, et des institutions genre le Centre Pompidou, la Croix-Rouge. Voilà, donc toute cette variété de partenaires, c'est des gens pour qui on va produire ou sous la bannière Louis Créative ou en marque blanche, et on va les accompagner de la conception jusqu'à la distribution. Et ça, c'est à peu près 70% du chiffre d'affaires de Louis. C'est ce qui permet de développer la boîte et de financer aussi la partie média.
Et toujours sous des formats narratifs.
Alors, sur la partie agence, pas forcément. La partie narrative, l'aspect narratif, c'est effectivement la patte de Louis et ce qui nous a fait connaître, notre marque de fabrique et
notre
savoir-faire, voilà, exactement. Et ce qu'on a vraiment développé comme savoir-faire spécifique et très, très singulier et qu'on peut reconnaître, je pense, quand on écoute les podcasts de Louis. Mais ce qu'on va faire pour des partenaires, ça peut être ça, et certains de nos clients viennent nous voir spécifiquement pour ça, mais ça peut être aussi des talks, des émissions de format différents où les gens vont venir nous voir plus pour le savoir-faire podcast en général, notre capacité à conceptualiser en fonction des besoins des marques, notre capacité à distribuer, à générer de l'audience, etc.
Oui, parce qu'on y reviendra plus tard, mais un podcast, c'est pas juste deux micros, on enregistre, c'est qu'après, il faut aussi faire venir l'audience et écouter ce podcast.
Absolument.
Comment c'est né, au final, Louis Média ? Parce que t'étais journaliste, t'étais chez Slate.
Oui, alors il y a toujours mille manières de raconter ce début, et selon mes moments de vie et selon les moments de la boîte, je pense que je le raconte un peu différemment. Mais moi, j'avais commencé stagiaire à Slate, j'avais gravi les échelons jusqu'à devenir rédactrice en chef. À ce moment-là, j'avais créé les podcasts de Slate et notamment Transfert. Et ça avait fait débuter une grande histoire d'amour entre le podcast et moi. Je voyais ce qui se passait sur le marché américain. Je voyais les opportunités économiques. Et puis surtout, je m'étais prise de passion pendant mes études pour ce journalisme littéraire, pas que audio. Et c'était difficile d'imaginer un monde dans lequel, dans l'économie française et dans le marché des médias français, on pouvait importer du storytelling et faire des grands récits et faire un média basé que là-dessus, en print ou en web. En revanche, en audio, je me disais qu'il y avait peut-être un marché pour développer ce genre de contenu. Et donc, à un moment où moi, je pense que j'avais fini mon chemin à Slate, j'ai décidé de partir, et en discutant avec Mélissa, qui est donc ma cofondatrice, Mélissa Bounois, et avec qui j'avais fait ce semestre à l'étranger dans le Missouri, et qui était mon adjointe à Slate et une de mes meilleures amies. En discutant, on s'est dit qu'il y avait une opportunité de lancer une boîte. On avait aussi pas mal de gens, quand on était à Slate, qui nous sollicitaient en nous disant « mais nous, on aimerait que vous puissiez créer des podcasts pour nous », etc. Et puis, je pense que j'avais aussi en tête une ligne éditoriale spécifique, un certain nombre de contenus qui ne ressemblaient pas à la ligne éditoriale de Slate et que j'avais envie de développer. Et en germe, moi, j'avais aussi des envies éditoriales personnelles et besoin d'un média dans lequel ces envies pourraient rencontrer une audience. Et les podcasts que moi, j'ai écrits à titre personnel, donc Entre, qui est la première série que j'ai lancée en 2018 chez Louis, dans laquelle je suivais une petite fille de 11 ans pendant toute son année de 6e, puis 2 ans plus tard, ou peut-être une nuit, je pense que c'est des podcasts que j'aurais pas pu créer dans un média que je n'aurais pas dirigé moi-même, parce que c'était pas forcément des sujets hyper vendeur au départ, ou peut-être une nuit, c'est une série consacrée à l'inceste. C'est 6 fois 50 minutes sur l'inceste. Je pense qu'il y a peu de gens qui auraient trouvé ça viable comme projet. Et donc, créer un média avec une ligne éditoriale spécifique qui pourrait accueillir ce genre de documentaire, ça me paraissait pertinent, et moi, ça comptait pour moi.
Et comment t'as fait au début ? Tu cites la série Entre. Donc, vous décidez avec Mélissa de fonder Louis. Vous avez votre idée de conceptualiser une émission, en tout cas un format. Et comment vous faites ?
C'est drôle parce que en cherchant un truc dans le drive de Louis Média hier, je suis retombée sur une photo d'une double page d'un cahier que Mélissa a prise en 2017, en février 2017, donc 6 mois avant que je quitte Slate, et je pense 8 mois avant que Mélissa ne quitte Slate. Et c'est une photo qu'elle a légendée, qu'elle a collée dans le drive et qu'elle a légendée pour dans quelques années, quand on se demandera comment tout a commencé. Et vraiment, je suis tombée dessus par hasard hier, et il y a juste un espèce de nuage de mots sur une double page de cahier Mouji, avec marqué « féminisme, intime, intelligent, accessible, narratif, chaleureux », ou un espèce de nuage de mots comme ça. Et c'est là que je me suis souvenu qu'on avait aussi envisagé de faire un média hybride qui ne soit pas que du podcast, qui soit podcast et newsletter, ou qui soit magazine et podcast. Ou... Donc en fait, ça a commencé de manière un peu erratique, mais l'été où j'ai quitté Slate, je suis partie en vacances chez un copain dont le père, Olivier Fleureau, avait dirigé plusieurs médias. Il avait dirigé le FT, il avait dirigé les Échos. Et cet été-là, donc on se retrouve en vacances ensemble par hasard. Il me dit « Toi, tu fais quoi dans la vie ?» Je lui dis « Bah moi, je viens de quitter Slate, je veux monter ma boîte. » Il m'a dit « Ah bon, ça va être quoi ta boîte ?» Je lui dis « Bah voilà, on va faire des podcasts, nanana. » Et c'est devenu notre mentor, il nous a suivis et il nous suit encore aujourd'hui. Il a investi d'ailleurs en même temps que Clément, qui avait investi aussi chez Louis comme business angel il y a quelques années. Et Olivier, il nous a assises avec Mélissa dans son salon et il nous a dit « Alors, c'est quoi le but de votre boîte? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez le raconter? Qui va s'occuper de la trésorerie ?» qui était son obsession, qui était moins la nôtre au départ.
Et qui a levé le doigt.
Et je pense que j'ai pointé Mélissa du doigt, c'est plutôt comme ça que ça s'est fait. Mais effectivement, nous, c'était d'abord un projet intellectuel et éditorial et certainement pas un projet économique au départ, d'autant que Mélissa et moi, on a la même formation. Elle a fait de la géographie avant Sciences Po. Moi, j'avais fait de la littérature, de la philo. Enfin, j'avais fait une hippocagne et deux cagnes. Et on avait du coup des formations assez littéraires, quoi. Et les tableaux Excel, c'était pas tellement ce dans quoi on se projetait. C'était un peu accessoire. Et donc, on a appris au fur et à mesure. Mais en tout cas, ça a commencé comme ça, avec des envies éditoriales très fortes. Et entre... c'était même pas le premier projet qu'on avait en tête. En réalité, donc cette série sur la petite fille, la première série que j'avais en tête, je pense que c'est Émotion, qui est aujourd'hui notre plus gros podcast, qui est un genre de podcast de développement personnel intello, qui avoisine les 500 000 écoutes mensuelles. Et donc, on avait cette envie de faire le podcast Émotion pour plein de raisons. On pensait que les émotions n'étaient pas forcément prises au sérieux dans les médias, que c'était traité comme un sujet féminin et superficiel, alors qu'on avait le sentiment que ça racontait beaucoup de choses de l'époque et de la société, que ça méritait d'être pris au sérieux. Et en fait, entre, ça s'est fait parce qu'un jour, j'ai rencontré cette petite fille qui s'appelle Justine dans le podcast et que j'ai eu une grande conversation avec elle un soir. Elle était partie se coucher, c'était la fille d'une amie, elle était partie se coucher fâchée avec sa mère et moi je suis allée l'aborder et je lui ai demandé pourquoi elle était fâchée, qu'est-ce qui se passait dans sa tête, etc. Et le lendemain, en débriefant avec mon mec de cette conversation, il m'a dit « Mais c'est pas possible, il n'y a que toi qui es capable de passer une heure et demie avec une gamine de 11 ans à essayer de comprendre pourquoi elle est triste et à la rassurer, etc. Il faut que tu en fasses un podcast. » Et c'est comme ça que ça a commencé.
Et les auditeurs, les auditrices de Louis, t'arriverais à nous en faire un portrait robot ?
Ouais, c'est des jeunes femmes de 18-35 en majorité, CSP+, urbaines, et on sait que c'est des très grandes consommatrices de culture. On fait des études quali tous les ans, on envoie un questionnaire qu'on pose sur nos réseaux sociaux, dans notre newsletter, qu'on met en signature de nos mails pendant quelques semaines, et on a une cohorte d'à peu près 1000 personnes qui répondent à chaque fois, et c'est des personnes qui lisent quasiment 20 livres par an, ce qui est énorme par rapport à la moyenne des Français, qui ont des abonnements à des ciné, type Cartes UGC, etc., qui ont des abonnements à des plateformes, qui ont des abonnements à la presse papier, ce qui n'est pas forcément le plus fréquent pour les 18-35. Ouais. Voilà, et qui vont aussi beaucoup au musée. Donc, c'est une audience très prescriptrice et c'est une audience qui est très recherchée des annonceurs, ce qui fait une des forces de Louis aujourd'hui, parce que c'est une audience qui est difficile à cibler, qui met beaucoup d'adblockers, etc. Et c'est une audience qu'on a chez nous. Katia, donc notre DG, dit souvent, je me demandais quand j'étais, parce qu'elle était avant éditrice de Madame Figaro, je me demandais où étaient ces jeunes femmes. En fait, elles étaient dans le podcast et elles étaient chez Louis. Donc voilà, on a cette audience-là.
Clément le soulignait quand il a parlé de toi, vous abordez des sujets très pointus, très exigeants, avec un ADN qui est celui aussi de Louis. Est-ce que tu veux nous en parler, de ces sujets?
Ouais, je pense que ça correspond à ce petit nuage de mots qui était sur le cahier de départ, où on disait qu'on voulait faire des choses intelligentes et accessibles. Ce qui est important pour nous, et d'ailleurs je pense que c'est une des forces aussi du podcast, c'est que c'est quand même difficile de brasser du vide avec des mots. C'est-à-dire que c'est possible, hein, un certain nombre de personnes en font un métier, mais c'est vrai que quand on voit une vidéo qui s'affiche automatiquement sur un flux Facebook, bon bah on va voir des images défiler, on va pas forcément se poser la question. Moi-même, je peux passer parfois beaucoup trop de minutes sur Instagram à regarder des vidéos de petits chiens, etc. On peut brasser du vide plus facilement en vidéo, pas que les petits chiens soient forcément du vide, mais bon. Et en podcast, c'est vrai que ça se voit tout de suite quand on dit rien. Et moi, c'est une de mes obsessions dans la vie, voire c'est la grande obsession de ma vie, d'essayer de bien nommer les choses et de bien nommer le monde. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui transforme le lien social et que c'est quelque chose de profondément politique. Et je pense que ma passion du podcast, elle vient de là aussi, la possibilité de mettre les mots dans le bon ordre pour décrire le monde dans lequel on vit et de faire coïncider le réel avec la manière dont on le raconte. Ça fait, je pense, une société plus éthique, quoi. Et donc ces sujets qu'on traite, on essaye effectivement de toujours mettre de l'intelligence. On va avoir des sujets très variés en réalité. C'est-à-dire qu'on a un podcast culturel consacré à la littérature, on a ce podcast sur les émotions, on a un podcast qui s'appelle Travail en cours, qui est sur les bouleversements du monde du travail, qu'on vient juste de relancer dans une version un peu plus aidante, on va dire, pour que les gens trouvent des outils pour leur vie professionnelle. On sait que beaucoup de gens sont en souffrance dans leur vie professionnelle, dans leur entreprise aujourd'hui. Et donc, on se demandait comment on pouvait faire pour donner des outils aux gens. On a un podcast qui s'appelle Injustice, qui propose des séries sur des injustices structurelles et systémiques. Donc, on a plein de podcasts différents.
Sur la parentalité, je crois aussi.
On a fait des gosses, absolument, sur la parentalité, qui est notre petit dernier, que j'adore, qui est plus joyeux et plus léger, je pense, dans le traitement que d'autres choses qu'on a pu faire. Et qui a une tonalité assez dynamique et assez punchy, ce qui n'est pas toujours le cas dans les podcasts sur la parentalité, et avec un ADN très journalistique. Oui. Donc cette idée, c'est toujours de ramener du fond, de donner des informations, de ne pas utiliser les mots en vain, de ne pas broder sur du vide. Et je pense que c'est vraiment ça qui est le point commun qu'on retrouve entre tous nos podcasts, quels que soient les sujets. L'idée, c'est d'aider les gens à vivre. Et donc de se demander un petit peu comment font les autres pour s'aimer, pour être amis, pour travailler, pour fonctionner avec leurs émotions, pour faire face aux injustices, etc. Donc après, c'est vrai que quand on veut s'attaquer au sujet de fond, on se retrouve souvent sur des sujets difficiles, des choses qu'il faut changer, des injustices, des difficultés dans le monde du travail, etc. Donc c'est vrai qu'on s'attaque souvent à des problématiques qui peuvent être complexes, mais on essaye toujours de le faire de manière accessible et de faire en sorte que n'importe qui, avec ou sans diplôme, quel que soit son bagage culturel, quel que soit son âge, puisse rentrer dans ces podcasts. Et ça, c'est la force du storytelling, d'avoir des personnages, d'avoir de l'émotion qui fait qu'on est pris par la main et qu'on rentre dans ces récits-là.
Des récits qui sont en plus relativement courts, c'est-à-dire qu'on ne part pas pour 3 heures non-stop de podcast.
Alors nous, on n'a effectivement pas de podcast comme il peut y avoir des talks d'une heure, 2 heures, 3 heures où on écoute des gens parler. Après, on a des formats très variés en fonction de ce qu'on veut raconter. Entre cette série sur la petite fille, c'est des épisodes de 8-9 minutes parce que l'idée, c'est d'inventer les formats qui collent à chaque fois au sujet. Donc là, c'était la parole de l'enfance, la parole du coup de l'éphémère, de la volatilité. Quand on a 11 ans, on a envie d'être pompier, puis le lendemain, on a envie d'être danseuse, on est amoureuse et puis ensuite, on l'est plus, on a tel prof et puis l'heure d'après, on a tel prof. Donc cette volatilité-là, elle était importante à conférer dans le format. Les saisons d'injustice, donc ces enquêtes sur les injustices systémiques, il va y avoir des séries de 6 fois 20 minutes ou des séries de 6 fois 50 minutes, les épisodes épisodes d'émotion, ils ont longtemps fait à peu près 50 minutes. On va raccourcir un petit peu dans les mois qui arrivent. Mais du coup, on essaye vraiment de coller la forme et le fond, toujours pour cette idée de cohérence.
Et tu raccourcis parce que tu vois une tendance à les gens ont envie de consommer des choses plus courtes ou tu...
Non, parce que, encore une fois, on va continuer de faire des séries qui pourront faire du 50 minutes quand ça s'y prête. On raccourcit parce qu'on se dit qu'on peut être encore plus dynamique et encore plus punchy et resserré pour être dans une économie de mots qui correspond à cette intégrité-là qui compte pour nous.
La nuance et le choix des mots.
Absolument.
Tu as reçu le prix Philippe Chaffanjon en 2021 pour ton podcast « Ou peut-être une nuit ?» dont tu as parlé rapidement tout à l'heure. Podcast que tu as sorti une première fois en 2020, notamment, je crois, dans Injustice.
Absolument.
Dans le film d'Injustice. Dans lequel tu parles d'un sujet très dur et encore beaucoup trop tabou, qui est celui de l'inceste. Inceste dont a été victime ta maman. Tu as d'ailleurs publié un livre à la suite de ce podcast. C'était un besoin vital pour toi de travailler sur ce sujet ?
Ouais. Et je pense que c'était... le besoin, il n'était pas de travailler sur le sujet en tant que tel. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je le formulerais. Il était de comprendre ce qui s'était passé. Mmh. Et je pense que l'écriture... et j'écoutais une interview de Lola Lafon qui disait ça il y a quelques jours. Moi, je l'ai écoutée en tout cas il y a quelques jours. Où elle disait, je ne crois pas qu'on écrive parce qu'on a des histoires à raconter. Je crois qu'on écrit pour essayer de comprendre ces histoires, de comprendre ce qui s'est passé. Et en fait... Moi, l'histoire de ma mère, c'est l'histoire de 7 à 10% de la population, en l'occurrence, 2 à 3 enfants par classe. C'est l'histoire d'une petite fille qui a été agressée par son père sexuellement. Et ce qui faisait défaut pour moi en termes de compréhension, c'est pourquoi elle ne me l'a pas dit. Moi, j'avais 26 ans quand j'ai appris cette histoire, qui est tout ce que je raconte dans le podcast. Hein. C'est autant un podcast sur les silences et la fabrique des silences dans notre société qu'un podcast sur l'inceste. Et c'était incompréhensible pour moi parce qu'on est très proche avec ma mère, parce qu'on se parle beaucoup, parce que j'ai grandi dans une famille où il me semblait que les mots avaient une place centrale. Mon père est avocat, enfin... Et donc, quand elle m'a dit ça à 26 ans, le mystère n'était pas « mais comment ça, elle a été victime d'inceste ?» Ça faisait sens par rapport à plein de signaux que j'avais pu recevoir. Ce qui ne faisait absolument pas sens, c'est comment elle a pu garder ce silence-là. Et donc, j'ai écrit ce podcast pour comprendre ces silences. Et j'écris toujours pour ça, parce que entendre, c'est le début de la compréhension. Quand on dit, vous savez, dans la conversation « oui, oui, j'entends », c'est-à-dire « oui, oui, je comprends ». Enfin, et c'est ça, en fait. Donc, aller interviewer ma mère, aller interviewer des expertes surtout, aller interviewer d'autres victimes d'inceste et écrire, moi, le fil rouge entre ces différents récits, c'est ce qui m'a permis de mieux comprendre l'histoire de ma famille.
Surtout qu'au moment où tu l'as sorti, ça restait encore un sujet, même si ça avait pu faire la une de certains magazines, quelque chose de certains journaux, quelque chose qui restait encore relativement tabou. C'est aussi, je pense, l'histoire de Camille Kouchner qui a redonné aussi un coup de projecteur sur ce phénomène et ces chiffres qui sont complètement hallucinants. Ça a permis aussi pour toi de redonner de l'écho à cette histoire et au-delà de l'histoire, à ce phénomène en fait qu'il faut combattre. Et c'est pas pour rien si tu avais dû le sortir dans Injustice la première fois.
Ben, c'était dans la continuité, c'est-à-dire que Ou peut-être une nuit est sorti en septembre, le livre de Camille il est sorti en janvier suivant, donc il y a simplement quelques mois d'écart. Incontestablement, son livre a remis le podcast sur le devant de la scène et voilà. Mais je pense que ça s'inscrit dans la même séquence, qui est que quelques années plus tôt, à l'automne 2017, le mouvement MeToo émerge, ou plus exactement réémerge, parce qu'en réalité, c'est un mouvement qui avait déjà quelques années, mais enfin, il devient le mouvement mainstream qu'on connaît cet automne-là. Et je pense qu'un certain nombre de personnes, et notamment de femmes, tout à coup s'interrogent sur est-ce qu'elles ont aussi été victimes, est-ce qu'elles en ont parlé, quel chemin est-ce que ça fait dans leur tête. Et moi, à ce moment-là, en 2017, je me dis, mais c'est dingue, tous ces témoignages qui sortent, et je ne vois pas de témoignages d'inceste. Est-ce que ma mère est la seule? Et donc, c'est comme ça aussi que commence cette réflexion. Et c'est à ce moment-là que je fais le podcast Entre, qui n'a absolument rien à voir avec l'inceste et avec les agressions sexuelles, mais qui, en revanche, a tout à voir avec quelle place on accorde à la parole des enfants et comment est-ce qu'on écoute ou pas les plus vulnérables dans la société. Et ce podcast Entre, qui est... où on ne m'entend quasiment pas et où il n'y a pas de partie écrite de ma part. C'est vraiment la voix de cette petite fille pendant les 26 épisodes. C'est aussi, en creux, je le dis a posteriori, hein, je l'ai pas pensé tel quel quand je commence à faire mes entretiens hebdomadaires avec elle. Mais a posteriori, je pense que ce qui me meut dans cette envie de faire ce podcast à ce moment-là, c'est l'envie de donner la parole à une enfant et de dire « Mais regardez, c'est une personne, elle mérite considération, elle est capable de penser, elle doit être traitée comme un individu à part entière et non pas réifiée comme on fait souvent avec les enfants. »
C'est beaucoup de sujets dans lesquels tu embarques tes équipes. Toi, tu écris encore beaucoup aujourd'hui sur certaines séries.
Alors non, c'est vraiment le...
C'était pas une question piège. Ce moment de...
Non, c'est très compliqué. Cette question de est-ce que j'écris ou pas, c'est au centre de toutes les problématiques de cette boîte. C'est à la fois comment on s'autorise à trouver du temps long dans une entreprise, comment on met du temps de pensée, de réflexion, de contemplation et du temps un peu gratuit qui est celui de la lecture, de la recherche. Quand j'ai lancé quand j'ai commencé à travailler là-dessus, la boîte, c'était Mélissa et moi dans nos salons. Donc, j'avais pas l'impression de faire défaut à qui que ce soit quand je passais deux jours à essayer de monter un silence ou de bouger un bout de voix sur mon logiciel de montage. Quand j'ai fait Ou peut-être une nuit, on était déjà une beaucoup plus grosse boîte, mais j'avais commencé à un moment où on était encore petite, on n'avait pas fait de levée de fonds, donc j'avais moins le sentiment de devoir porter un plus gros bateau. Ouais, c'était pas tant rendre des comptes, c'est plus un truc de culpabilité entre moi et moi-même, de quel temps on s'autorise pour soi ou pour les autres, et qu'est-ce qui est directement rentable ou qu'est-ce qui sera rentable entre guillemets dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Et entrer ou peut-être une nuit, c'est très facile a posteriori de se dire bah oui, c'était hyper rentable, ça a fait pour entre 4 millions d'écoute, pour peut-être une nuit un peu plus d'un million, ça a apporté de la notoriété à la boîte, ça a apporté des prix, ça a apporté de la crédibilité, de la légitimité, etc. Mais au début de la création, on se dit jamais, bah oui, ça va être super. Moi, je me dis toujours, mais comme n'importe qui crée n'importe quoi, je pense, ou en tout cas, je crois, j'espère, comme la plupart des gens, on se dit, bah non, ça va être nul. Et c'est aussi pour ça qu'on se plie en quatre pour essayer de faire
sortir quelque chose de
tort. Voilà. Mais donc, c'est difficile. Et puis, par ailleurs, on en reparlera peut-être un petit peu, mais des difficultés managériales chez Louis. Et je pense que cette question de qu'est-ce qu'on a le droit de dire, où est-ce qu'on a le droit de s'exprimer, comment on a le droit de prendre la parole, comme moi, c'était déjà mon obsession, c'est venu bousculer un truc très, très profond chez moi. Et ça, je pense que ça m'entrave un peu dans l'écriture aujourd'hui. Mais je suis sur le dossier. Et j'espère bien que dans les années qui viennent, je m'y remettrai.
Oui, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu nous racontais le premier rendez-vous avec celui qui est devenu votre mentor, avec Mélissa, vous avez une formation Sciences Po, journaliste. Vous n'étiez pas forcément... voué à créer une boîte, à devenir entrepreneur, et même quand on a soi-disant les cours qui doivent nous amener à être entrepreneur, tant qu'on n'est pas dans le dur et dans le vrai de comment gérer une boîte, on n'y est pas. Là, tu viens de souligner les problèmes de managériaux qui ont pu avoir lieu à Louis et que la presse a relayé. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette période un peu complexe et de cette structuration de boîte ? Que tu n'avais peut-être pas imaginé au départ quand ton but, c'était de créer un écrin éditorial où tu pourrais prendre la parole sur des sujets qui te tenaient à cœur et qui allaient faire changer le monde.
Énormément de choses. Je pense que j'ai vraiment énormément appris. Je pense que ça raconte beaucoup de choses sur les bouleversements du monde du travail qu'on a vécu ces dernières années, entre le moment où on a fondé Louis avec Mélissa et aujourd'hui, outre le fait qu'il y a quand même eu 2 ans de Covid, donc les confinements, la réinvention du coup du rapport au télétravail, ce qui implique aussi une réinvention du rapport vie privée, vie professionnelle. Quel est mon lieu de travail? Qu'est-ce que je mets de moi-même à quel moment de la journée? Donc ça a été des bouleversements extrêmement profonds, qui vont aussi avec des enjeux économiques qui peuvent être quand même d'une très grande violence, qui fait que les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail ne se projettent pas de la même manière. On est aussi, parce qu'on était une boîte, qu'on s'est fondé comme une boîte avec des valeurs très fortes, qu'on n'a pas tellement revendiqué dans les premiers temps, mais qu'on a fini par revendiquer parce que ça transpirait de partout. Donc, il y a un moment donné, ça ne faisait pas sens de ne pas en parler, de ne pas l'adresser quand on nous posait la question et de pas l'inclure, en fait, dans la définition de ce qu'était Louis. Donc, on est aussi beaucoup plus attendu au tournant. Et les gens arrivent aussi, je pense qu'il y a je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais en tout cas cette tension passionnante sur le monde du travail qui est que les gens veulent absolument, et moi la première, entrer dans des boîtes qui font sens par rapport à, voilà, au fait qu'on va passer 5, 10, peut-être pas plus que 10, mais heures par jour dans son travail et qu'on a envie que ce soit pour quelque chose et quelque chose qui n'est pas forcément seulement un salaire. Mm-hmm. Quelque chose qui va donner du sens à notre existence. Donc, on investit notre travail de tout ça. Mais du coup, quand le travail ne répond pas à ça, la déception, elle est d'autant plus grande. Donc, il y a cette espèce de... Et on voit beaucoup tous ces gens qui sortent d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, de très grandes écoles. Il y a eu beaucoup de débats et d'articles écrits là-dessus ces derniers mois, ces dernières années, sur les grands groupes qui ont du mal à recruter, etc. Mais... Donc, on va voir beaucoup plus de gens rentrer dans des petites boîtes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, qui sont en phase de lancement, donc pas du tout structurées. Nous, on n'avait pas de service RH. Et non seulement on n'avait pas de service RH, mais on n'avait pas de gens pour s'occuper des RH. Et notre focus était entièrement sur l'éditorial. Et moi, j'étais, et je pense que je le vis très différemment aujourd'hui, mais j'étais habitée par le fait que...
Il y a une
personne formidable qui a travaillé chez nous pendant longtemps, qui s'appelle Marion, qui disait « Moi, j'essaye de rappeler aux gens qu'on n'est pas en train de sauver des vies, on est juste en train de faire des podcasts. » Mais moi, j'avais l'impression de sauver des vies. Je veux dire, mettre les mots dans le bon ordre pour raconter le monde correctement, pour moi, c'était littéralement un enjeu vital, puisque c'était ce qui m'avait manqué, moi, pendant les 26 premières années de ma vie. Mmh. On m'avait privé de mots. Et ça m'avait empêché de respirer pendant 26 ans, donner les bons mots aux bons endroits. C'était un enjeu de survie. Donc, ça met un poids beaucoup trop important
sur
les équipes, sur un certain nombre de choses. Et la complexité, c'est d'arriver évidemment à enlever ce poids-là, à ne pas faire peser ses propres névroses. Quand on arrive et qu'on veut prendre à bras le corps, c'est-à-dire sortir de terre un projet, parce qu'une entreprise, c'est ça quand même. C'est à un moment donné, il n'y a rien. Et puis tout à coup, on va faire émerger un microcosme, une entité économique qui va pouvoir payer des salaires, avoir un sens dans la société. Voilà. Et donc, faire sortir ça de terre, ça demande un truc un peu déraisonnable qui est de croire que c'est important. Sinon, on ne peut pas.
Sinon, on ne le fait pas.
Voilà. Et qu'en plus, nous, on avait la prétention de penser qu'on pouvait faire différemment. Mais du coup, en termes justement de RH, etc., parce que c'était des questions qu'on s'était énormément posées au début de la boîte, mais tant qu'on n'est pas dedans, on voit pas comment bien faire, on voit pas comment rectifier le tir, etc. Donc tout ça pour dire que il y avait plein de choses qui se mélangeaient, donc les aspirations des générations qui se transforment, des enjeux économiques. L'industrie du podcast, c'est une industrie qui est en train de se structurer, mais qui, quand on a lancé la boîte, on était 3 boîtes sur la place de Paris. Enfin, j'exagère, mais c'est pas loin d'être ça. Donc, il n'y avait pas de modèle. Il n'y avait pas de modèle économique, mais il n'y avait pas non plus de modèle juridique, de modèle humain. Encore aujourd'hui, chez Louis, on est en train de réinventer les contrats en permanence, qu'il n'y a pas de grille de salaire adaptée au podcast, il n'y a pas de convention collective sur le podcast.
D'ailleurs, vous êtes fondateur du PIA.
Absolument, dans lequel Katia Sanro est très investie et c'est des sujets de lobbying permanent. Le podcast, c'est aussi la seule industrie culturelle qui n'a pas d'aide d'État. C'est-à-dire que la presse en a, le cinéma via le CNC en a, la littérature va en avoir avec le CNL, etc. Et nous, on est dans un espèce de no man's land, ce qui est normal puisque ça démarre. Et le PIA fait beaucoup pour que ça s'accélère puisque c'est, encore une fois, la santé d'entreprise, des emplois qui sont en jeu, etc. Juste, mais je précise, tout était
c'est
inventé.
Le syndicat des producteurs
indépendants de l'audio.
Voilà.
Absolument. Ouais.
Juste pour ceux
pardon.
Qui ne seraient pas dans notre microcosme.
Ceux qui ne connaîtraient pas le PIA, je ne comprends pas.
Mais qui œuvrent beaucoup justement pour régulariser aussi et mettre en place une certaine législation autour du podcast. Parce que comme tu le dis, comme c'est un média nouveau émergent qui est différent de la radio et différent de tout ce qui existe, on a besoin aussi de mettre en place un certain nombre de normes en fait pour avancer sur ce sujet.
Oui, absolument, pour avoir des cadres qui soient rassurants pour tout le monde aussi, pour les salariés, pour les dirigeants et pour nos partenaires, etc. Donc c'est très important d'avoir un peu des chemins balisés pour avancer, puisque sur n'importe quel chemin, il faut avancer. Mais nous, en plus, on doit dessiner le chemin. Quand je dis nous, c'est pas que Louis, hein.
Bien
c'est
sûr,
toute c'est l'industrie du podcast, du podcast ou n'importe dépendant. Qui montrait une boîte dans une industrie naissante. Ouais. Mais donc, c'est le double du boulot quand il faut pas juste avancer sur le chemin, voire courir sur le chemin pour arriver premier sur la ligne, mais en plus créer le chemin. Donc, c'est quand même une aventure particulière, quoi.
Et donc, qui demande, et quand on n'a pas forcément en plus l'expérience de tout ça dans une autre boîte, parce que j'imagine que chez Slate, t'avais pas tout à fait ces mêmes responsabilités.
Bah, j'avais pas du tout les mêmes responsabilités,
que là.
Puisque j'étais pas présidente voilà. de Slate, loin s'en faut. Donc, j'avais appris un certain nombre de choses, et notamment en termes de management, mais l'investissement émotionnel, forcément, n'était pas le même. Et encore une fois, ce sentiment de mission que j'ai chevillé au corps n'était pas le même chez Slate. Mais donc, on a appris après ces difficultés-là. On a fait un audit, on s'est fait accompagner, on a restructuré la boîte, on a recruté des nouvelles personnes, plus seniors aussi, parce que c'était une boîte avec que des gens dont c'était le premier travail. Donc, ça fait aussi une dynamique forcément différente. Il n'y a pas de possibilité de comparer. Donc, toutes les attentes sont plus élevées aussi. Je pense qu'il y a une question d'attentes qui sont forcément différentes quand c'est son premier emploi ou quand on a vu un certain nombre de choses et qu'on est capable de faire sa tambouille et de se dire bon bah ça c'est bien, ça c'est moins bien et qu'on est aussi plus armé pour demander un certain nombre de choses, pour exprimer des frustrations, pour proposer des solutions, c'est sûr.
Et ce qui est important de préciser, c'est ce qui a été donc relié dans la presse, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez aucune procédure en
cours. Non, on n'a jamais eu le moindre procès au prud'homme pour mauvais management. On n'a jamais eu la moindre accusation. On n'a jamais eu le moindre signalement de la médecine du travail. Et d'ailleurs, quand on a fait notre audit, il y a eu une conclusion dont on n'a pas fait état dans la presse parce que, encore une fois, il y a ces enjeux de pouvoir qui comptent beaucoup pour moi sur qu'est-ce qu'on s'autorise à faire comme droit de réponse et de ne pas écraser la parole des gens qui s'expriment. Mais la conclusion de l'audit, c'est qu'il n'y avait jamais eu le moindre harcèlement et qu'il y avait eu juste une boîte jeune avec des dysfonctionnements, avec des difficultés. D'enjeux de placement des uns et des autres, de titres, donc de reconnaissance, etc. Enfin, il y avait évidemment des dysfonctionnements, mais qui étaient des dysfonctionnements de bonne foi et qui étaient absolument pas liés à des violences managériales comme ça a pu être
relayé. Tu disais tout à l'heure qu'en fait, vous avez dû apprendre en marchant, vous structurer donc avec le PIA, etc. Et je te disais off-micro que j'avais réécouté les tout premiers épisodes de Transfert, qui doivent dater de 2016, je crois. Et à la fin du podcast, t'expliquais comment on faisait pour écouter un podcast, sur quoi on pouvait l'écouter, etc. Donc, ce qui m'a fait sourire. Une décennie plus tard, qu'est-ce qui a changé, selon toi, dans la consommation du podcast ?
C'est hyper intéressant parce que finalement, les plateformes sont toujours à peu près les mêmes. Spotify a pris beaucoup plus de place ces dernières années, mais Apple Podcast reste la plateforme via laquelle les gens écoutent le plus de podcasts. Apple Podcast, c'est l'application des iPhones. Les iPhones, on sait que c'est quand même d'abord acheté par les CSP+, etc. Donc, à la fois, il y a quelque chose qui n'a pas bougé. À la fois, il y a eu une explosion du nombre de podcasts produits, du nombre de podcasts consommés. Il y a un appétit qui est toujours énormissime. Mais il y a toujours un enjeu quand même de découvrabilité sur les podcasts. Ce qui reste pas évident, c'est que on n'a pas d'outils pour promouvoir les podcasts de manière rigoureuse, avec des plans marketing, comme on peut avoir sur d'autres outils comme la vidéo. Il y a quelque chose, pour le meilleur et pour le pire, qui reste très artisanal, en fait, dans le podcast. Ce qui, pour la partie le meilleur, est que je pense qu'il y a encore une prime au contenu. C'est-à-dire que quand on sort quelque chose qui est vraiment formidable, parce que très puissant émotionnellement, parce qu'un récit très original, parce que des voix très singulières, etc., il va y avoir une forme de bouche à oreille qui va permettre, alors ça peut être sur un temps long, il faut parfois être patient.
C'est plutôt un temps long, de toute manière, le podcast, généralement.
Oui, mais je veux dire, il va pas y avoir ce sujet de viralité, effectivement, comme sur de la vidéo, où en quelques secondes, on va avoir tout à coup des millions d'écoutes. Ça ne s'est pas encore produit. Donc ça veut dire que quand même, quand on fait un très bon contenu, il va se frayer un chemin. Pour la partie, pour le pire, pour le meilleur et pour le pire, c'est que c'est plus difficile de mettre des moyens pour dire... Bon, voilà, ce podcast-là, on y croit, on veut absolument qu'il arrive en haut des classements, donc on va mettre des moyens marketing de dingue. Ça marche pas encore comme ça. Donc, il y a énormément de choses qui sont mises en place, il y a plein de boîtes de tech qui travaillent sur des outils pour améliorer la découvrabilité, pour améliorer la possibilité, y compris pour les annonceurs, hein, de mieux cibler les audiences, etc. Mais ça reste un work in progress.
Le marché de la pub actuellement sur le podcast, selon toi, il se porte comment ?
Ben, il se porte très bien au sens où il grossit chaque année, incontestablement. Tous les ans, au moment du Paris Podcast Festival, Havas sort une étude qui montre que la croissance, elle est très importante, qu'il y a une valeur sur le podcast pour les annonceurs qu'on ne trouve nulle part ailleurs, pour les raisons qu'on décrivait au tout début, c'est une audience très qualifiée, très rare, très difficile à atteindre sur d'autres médias, mais aussi parce qu'il y a des, par exemple, un taux de mémorisation des messages publicitaires qui est énorme sur le podcast. Je crois que c'est 80% des gens qui disent se souvenir des messages qu'ils ont écoutés, 70% qui ont déjà acheté quelque chose après avoir entendu une publicité dans un podcast. Donc ça, c'est des éléments qui sont extrêmement forts vis-à-vis des annonceurs. Après, ça reste pour beaucoup du test. Et c'est vrai qu'on a vécu des années où faire des tests, et parce que c'était le Covid, puis la guerre en Ukraine, l'inflation, tout ça fait que faire des tests... c'est parfois quelque chose qui paraît un peu audacieux aux annonceurs. Après, nous, on a des taux de reconduction qui sont énormissimes, de plus de 50%. Donc, ça veut dire aussi à quel point les annonceurs sont contents, à quel point ils ont envie de reconduire. Donc, que ce soit des partenaires médias comme Madame Figaro, ou que ce soit l'IRCAM, par exemple, qui est une école d'ingénieurs avec qui on en est à notre troisième ou quatrième saison de podcast, ou que ce soit des annonceurs plus traditionnels. Nous, parmi nos clients, on compte aussi bien Ardian que, je disais tout à l'heure, Crédit Agricole, avec qui on a fait plusieurs podcasts, Evian, qui sponsorise, par exemple, Fête des Gosses, notre podcast sur la parentalité. Donc, on a un portefeuille de clients extrêmement varié, et le podcast intéresse dans absolument tous les secteurs.
Et puis en fonction, j'imagine, de tes clients, il n'y a pas forcément aussi la même relation à l'audience, dans le sens où tu peux être dans une audience quantitative et aussi une audience qualitative, en fonction des publics que tu souhaites toucher et des sujets que tu traites.
Oui, bien sûr. Nous, on a des annonceurs qui vont aller chercher à faire passer un message ou à être sur... Alors déjà, en termes d'audience, sur une audience qualifiée, etc. Mais ils vont aussi vouloir faire passer des messages de fond. Ils vont avoir besoin de positionner leur marque, ou ils vont avoir... ça va pas être juste un truc de mass market, c'est sûr.
Ouais. En 2021, t'as Télérama qui a fait tout un dossier sur la révolution du podcast. Et parlait même d'un rôle curatif du podcast. Ça t'inspire quoi?
Bah oui, je pense que moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je m'étais lancée dans le podcast au tout départ. C'est que, à l'époque où j'étais à Slate, je passais mes journées sur un écran et beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Et dans un sentiment de brassage permanent. Et quand je sortais du bureau, j'avais qu'une envie, c'était d'écouter un podcast pour être à la fois dans des questions de fond, comme on disait tout à l'heure, mais aussi dans quelque chose qui allait reposer le regard, qui allait permettre de s'évader, qui allait permettre de marcher. Moi, j'adore encore faire... les boutiques, par exemple, en écoutant des podcasts pendant des heures, parce que je me laisse un peu, c'est une sorte de flânerie, quoi. Je me laisse porter par une histoire, ou quand je suis dans le train, par exemple, comme là, c'était le week-end de Pâques, il y a ce bonheur à pouvoir se dire, je vais écouter des histoires, apprendre des choses. J'écoutais une série, par exemple, sur l'hystérie de France Culture, qui était absolument passionnante, où il y a un podcast qui est sorti sur J.K. Rowling, donc l'autrice d'Harry Potter, qui est accusée d'être transphobe aujourd'hui, etc. C'est des sujets de fond absolument passionnants et qui vont être traités différemment, avec une densité qui permet de... Ouais, qui permet une douceur par rapport au côté très énergivore du monde des médias par ailleurs, qui peut être un peu éreintant parfois.
Quand on t'a contacté la première fois pour organiser ce podcast, t'étais un petit peu occupée, parce que fin 2022, CMI France est rentrée au capital de Louis Média à hauteur de 47% pour un montant tenu secret.
Donc, absolument.
Donc tu vas pas nous le dire.
Non.
C'est un coup d'accélérateur pour Louis dans un univers du podcast qui, comme tu le disais tout à l'heure, commence à se structurer.
Oui, absolument. Et en fait, nous, on avait envie de faire rentrer un industriel au capital pour pouvoir accélérer. On s'était posé la question de faire rentrer un fonds d'investissement et ça demandait des projections de croissance astronomique qui nous paraissaient pas saines et pour des convictions personnelles et pour des enjeux humains, puisqu'on avait... envie de projeter l'équipe et la boîte dans quelque chose de sain, d'équilibré, de raisonnable au sens littéral. Et donc, il nous paraissait important de faire entrer un industriel. Et il y avait quelques options différentes possibles. Ça pouvait être un acteur de la presse traditionnelle, un groupe de presse. Ça pouvait être un acteur de l'audiovisuel. Ça pouvait être un groupe d'édition, par exemple. Et la rencontre avec CMI s'est faite de telle manière que on s'est rendu compte que c'était, je dis ça sans langue de bois, puisque vous aurez compris que c'est pas exactement ma manière de faire. Mais CMI croyait à ces deux pieds que je décrivais au tout départ sur ce qu'est Louis Média, avec la partie média et la partie agence. Et c'était important pour nous de pouvoir poursuivre ces deux pieds, parce que c'est ce qui garantit notre équilibre et donc notre indépendance et donc notre capacité à innover, à raconter des histoires qui comptent pour
nous,
et
l'équilibre économique,
etc. Mais oui, c'est ce que je dis, c'est que cet équilibre économique, c'est la garantie de notre viabilité. C'est-à-dire que si on s'était retrouvé avec un fonds qui avait injecté des fortunes, mais qui ensuite avait attendu une rentabilité de dingue, même à 5 ans, ça nous aurait empêché de prendre des risques éditoriaux. Et ces risques éditoriaux, c'est à la fois ce qui fait l'excitation d'être chez Louis et d'écouter Louis, et c'est ce qui fait aussi qu'on peut aller chercher des nouvelles poches d'audience, aller casser des nouveaux records et aller faire un certain nombre de réussites, en fait. Il faut forcément prendre des risques éditoriaux pour réussir. Et donc, la rencontre avec CMI permettait de poursuivre cet équilibre et d'inventer plein de synergies avec leur régie commerciale, avec les différents titres, puisque chez CMI, il y a le L et il y a un certain nombre de titres qui faisaient sens avec Louis. Ils ont investi d'ailleurs à peu près en même temps chez Uzbek Erika aussi, qui est un média un peu comme nous, c'est-à-dire ils sont un peu plus gros que nous, ils ont un chiffre d'affaires un peu plus gros, mais globalement, c'est quand même un peu le même type de structure avec à peu près le même nombre d'années de... Non, ils ont plutôt 10 ans, mais... Enfin, voilà, c'est le...
Parce qu'il y a des complémentarités évidentes.
Ouais, absolument.
Avec ces...
Et voilà, et la rencontre donc, et économique et humaine s'est faite de telle sorte qu'on s'est dit que c'était le bon partenaire pour nous.
Charlotte, tu viens de parler de risques éditoriaux. On a une question pour toi de la part de ton bro, Clément Del Piero, à ce sujet. On l'écoute.
Vous avez un message.
Voilà, moi je serais très curieux de savoir quel sera le prochain carton ou la prochaine prise de risque importante éditoriale de Louis Média.
Eh bien, c'est difficile à dire comme ça. Nous, c'est-à-dire que le risque éditorial, il peut être sur le fond ou il peut être sur la forme. Ça peut être simplement d'aller sur un terrain qui est inattendu de notre part, ou ça peut être d'aller sur un sujet difficile comme on l'a fait avec Ou peut-être une nuit. Mais ça passe pas forcément par le fait d'aller casser un tabou, d'aller sur une enquête hyper sensible. Je pense que par exemple, quand on a lancé Fête des gosses sur la parentalité, alors que c'est un sujet qu'on n'avait jamais exploré, et avec un ton nettement plus sautillant, dirait notre responsable éditorial, c'était aussi une prise de risque.
Parce qu'on ne vous attendait pas forcément là.
Parce qu'on ne nous attendait pas forcément là-dessus. Et donc ça, ces petits déplacements qu'on fait au quotidien, c'est aussi des prises de risque.
Donc en fait, on encourage Clément à continuer de suivre Louis de près.
Absolument.
Et de regarder les prochaines Évidemment. Sorties. Est-ce que tu te souviens de ton premier client avec Louis ?
Alors, je peux le dire de deux manières. Le premier podcast client qu'on a sorti, c'était avec Blissim, qui s'appelait à l'époque Birchbox, ouais. Qui est toujours d'ailleurs nos clients, qui sont toujours nos clients. On a produit plusieurs saisons pour eux. Et à l'époque, la personne qui s'occupait du brand chez eux, Julien, était venue nous voir en nous disant « Moi, j'adore ce que vous faites, j'ai envie de faire un podcast avec vous. » Et c'était absolument génial parce qu'elle nous avait laissé une liberté folle. Et avec Mélissa, on s'était dit « Donc, c'est les box beauté.
Oui, »
Et avec Mélissa, on s'était dit « Qu'est-ce qu'on voudrait entendre, nous, sur la beauté ?» Et on s'est dit « Mais en fait, on est tellement, c'est tellement difficile de se trouver belle. » Parce que toutes les injonctions faites aux femmes, on n'est jamais assez ci, on n'est jamais assez ça. Comment elles font, les meufs qui se trouvent belles, pour se trouver belles? Et on s'était dit, c'est ça qu'on a envie d'entendre. Et on lui avait proposé, elle nous avait dit oui, ça s'était fait hyper rapidement. Ça, c'est le premier podcast de Brain qu'on a sorti. Et vraiment, je l'adore, ce podcast. Et il s'appelle Regard. Et j'invite tous les gens qui nous écoutent à aller l'écouter parce que c'est passionnant. Et ouais, c'est vraiment super. Et une autre manière de raconter notre premier client, c'est Katia Sanro, qui est devenue notre DG aujourd'hui, et qui est donc la troisième associée avec Mélissa, qui était éditrice donc du Madame Figaro à ce moment-là, et qui m'a envoyé un DM sur Twitter avant même qu'on ait déposé les statuts de Louis. Mais on avait déjà annoncé dans la presse qu'on allait monter la boîte. Et elle m'a envoyé un DM en me disant « Moi, je veux lancer les podcasts de Madame Figaro. » Et je suis ce que tu fais avec Transfert. J'ai suivi ce que tu faisais chez Slate. Je pense que c'est toi qui dois les produire. Est-ce que c'est possible ? Et on a dit, mais bien sûr. Et après, on s'est dit, mais comment on fait un devis ?
Donc là, vous avez ouvert un tableau Excel.
Et là, on a ouvert un tableau Excel. Vraiment, tu verrais à quoi ça ressemblait, nos devis à l'époque. C'était vraiment, c'est pas joli à voir. Mais ça nous a pas empêché de produire les podcasts de Madame Figaro. Et on continue aujourd'hui. On en produit encore davantage. C'est sorti un tout petit peu après les podcasts, le podcast Regard dont je parlais, mais Katia est arrivée toute première cliente et ça s'est si bien passé que au bout de 3 ans, on lui a demandé de nous rejoindre. Ouais.
Ton premier coup de culot ?
Je sais pas si c'était d'un culot monstre, franchement je crois pas. Quand je finissais l'école de journalisme à Sciences Po, une de mes meilleures amies qui s'appelle Cécile de Hesdin, qui est aussi quelqu'un que j'admirais énormément professionnellement, donc était à l'école de journalisme avec moi. Elle avait eu un stage, elle m'avait dit que Slate se montait en France, et elle avait eu un stage, et elle m'avait dit, mais ils ont trouvé tous leurs stagiaires, et j'ai envoyé un mail à Johan Hufnagel qui montait Slate et qui allait en être le rédacteur en chef, en lui demandant de me recevoir quand même. Et je sais pas si c'était d'un culot monstre, mais en revanche, ce stage à Slate, puis du coup ma vie à Slate dans les années qui ont suivi, ça a été absolument déterminant
pour
dans ma vie.
Oui. Ouais.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
À quoi tu rêvais petite, Charlotte ?
Je pense que je voulais vivre une vie intense. Je voulais qu'il se passe beaucoup de choses. Je voulais qu'il se passe beaucoup de choses. Et ça, je pense que ça a marché.
Et c'est pour ça que tu as choisi la carrière de journaliste au départ ?
Oui, je pense qu'il y a une forme d'adrénaline et de vivre mille vies en une seule, d'aller rencontrer des gens qu'on rencontrerait pas autrement, d'aller moi j'ai jamais fait des terrains difficiles, je suis très loin de des reporters de guerre ou voilà, mais je pense qu'effectivement il y a une forme de d'intensité absolue dans ce métier. Après je pense que ce que je voyais dans l'intensité quand j'étais petite, c'est très différent de ce que j'y vois maintenant. Je pense que aujourd'hui je crois à une forme de d'intensité aussi dans la douceur, et je pense qu'il peut y avoir une très grande intensité dans le fait de découvrir un certain nombre d'œuvres, dans un certain nombre de relations apaisées, enfin d'un certain nombre de choses, mais en tout cas d'avoir une vie très très pleine. J'ai une phobie absolue de l'ennui, en fait.
Et du vide,
bien sûr.
Tu t'étais dit un jour je créerai ma boîte ?
Pas du tout. Pas du tout. Et en plus, je pense que c'est pas le bon endroit pour dire ça, mais j'ai pas d'admiration particulière pour l'entrepreneuriat. C'est pas du tout là-dedans que je mets ma valeur. Le fait d'avoir créé un certain nombre de podcasts, ou le fait d'avoir permis à certaines histoires d'émerger, ou il y a un certain nombre de choses qu'on fait chez Louis dont je suis très fière et auxquelles je suis heureuse de participer. Mais en soi, tout ce qui est réussite économique, c'est pas quelque chose que je valorise, c'est pas quelque chose que je dévalorise non plus, hein, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui me...
Ton moteur, c'est
qui
le contenu.
M'importe.
Et les gens?
Mon moteur, c'est de mener une vie éthique. Ouais. Et je pense que ça passe pour moi par un certain rapport au langage et par le fait de vivre une vie pleinement humaine. Et ce qui va nous distinguer des non-humains, ça va être un rapport au langage. Donc la capacité à tisser du lien, à se dire des choses, à se dire la vérité, à essayer de se faire le moins de mal possible, à essayer d'être en cohérence entre ses valeurs et ses modes d'action. Je pense que c'est pour ça aussi que ça a été si difficile pour moi, ce qui a pu nous être reproché à un moment donné. Mais ça marche dans tout. C'est-à-dire que j'ai lu il y a quelques semaines dans le New Yorker un article qui m'a vachement fait réfléchir et auquel je continue de penser quotidiennement, sur une philosophe qui est mariée depuis des années avec un type et ils ont des enfants, et puis tout à coup elle tombe amoureuse d'un mec vachement plus jeune, un de ses étudiants, et en 3 semaines elle quitte son mari, elle divorce, elle dit en fait je ne pouvais pas rester dans un mariage auquel je ne croyais plus, je ne pouvais pas faire semblant. Et donc elle va reconstruire toute une histoire d'amour, mais tout en disant les choses à son ex-mari avec qui elle a fait je sais pas 20 ou 30 ans de vie, quoi. Et elle fait tout ça dans une très grande transparence, dans une très grande forme d'intégrité. Et l'idée de pouvoir avoir des liens intègres, c'est quelque chose qui m'importe énormément en amitié aussi. L'amitié, je pense que c'est vraiment un des trucs les plus importants pour moi dans la vie, parce que c'est un endroit où je pense que j'arrive à mettre en place cette cohérence et cette intégrité.
Et cette bulle amicale, elle te suit depuis longtemps?
Ah ouais. Il y a des rajouts tous les ans ou tous les 2 ans. Il y a une ou deux personnes qui se rajoutent. Mais ma première amie, c'est ma meilleure amie. On avait 8 ans et c'est toujours ma meilleure amie. Et au fur et à mesure des années, voilà. Donc il y a une petite quinzaine de personnes qui sont
ton noyau dur.
Qui sont mon noyau dur. Et avec qui il y a un très grand amour et un très grand soutien intellectuel et une très grande émulation et une très grande franchise. Et je pense que c'est pas du tout anodin que Louis, je l'ai monté avec une de mes meilleures amies. C'est aussi quelqu'un avec qui j'avais travaillé, avec qui on s'était disputé dans le travail, on connaissait les défauts l'une de l'autre, on savait dans quoi on s'embarquait, on a toujours pu être très franches. Et c'est ce que j'essaye de construire toujours en permanence. Et je suis monomaniaque, hein, mais ça revient toujours à cette question de ce qu'on arrive à se dire ou pas, et est-ce qu'on arrive à se parler ou pas. Et je pense que c'est aussi s'il y a un truc que je changerais chez Louis, par exemple, dans la manière de créer la boîte au départ, c'est ça, c'est d'essayer de mettre en place des circuits de communication différents. Je pense que j'en étais pas capable à ce moment-là pour des questions d'âge et pour des questions de travail personnel sur moi, mon histoire que j'avais pas fait, et j'en étais pas là. Mais cette possibilité de se dire les choses et d'être honnête, je pense que c'est la condition de lien sain, y compris dans le travail et dans l'entreprise.
Complètement. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on t'a enseigné petite et que toi, t'aimerais transmettre plus tard, si un jour t'as des enfants?
Outre ce truc sur le langage.
Le langage, on a compris.
Je pense que le courage, c'est un truc hyper important pour moi.
Ouais.
Et le courage, ça veut surtout pas dire ne pas avoir peur, sinon c'est trop facile, c'est pas du courage, c'est, je sais pas, de l'impudence. Mais le fait d'avoir peur et de quand même faire les choses, je pense que c'est un truc qu'on m'a appris, et donc d'être en cohérence et d'affronter un certain nombre de peurs pour être en cohérence, et donc d'être courageux pour être en cohérence. Je pense que ça, c'est vraiment un truc très important pour moi, et qui, je pense, est très important aussi dans le travail et dans l'entreprise. Avoir le courage de prendre des décisions difficiles, avoir le courage de dire les choses, même quand on n'a pas envie de les dire, avoir le courage de faire partir certaines personnes, avoir le courage, soit de regarder où on en est, et de se dire, est-ce que je suis encore la meilleure personne à ce poste-là? Est-ce que je suis à mon max de mes capacités? Est-ce que il y a un podcast américain qui s'appelle Without Fail, dans lequel il y avait une interview de la DRH de Netflix, qui n'est plus la DRH de Netflix, mais qui l'avait été pendant longtemps, et qui racontait qu'avec Reed Hastings, tous les ans, pendant des années, ils se retrouvaient à Sundance, et je crois que c'était à Sundance, et ils prenaient un verre tous les deux, et ils se disaient, est-ce qu'on est chacun le meilleur pour le poste? Et à un moment donné, quand ils se sont posé la question, il lui a dit, ben, en fait, je crois que t'es plus la bonne personne, parce qu'en fait, c'était passé d'une plateforme d'acheminement de DVD à ensuite une plateforme où ils recrutaient des ingénieurs, etc. Un truc de contenu où il fallait trouver des artistes, des talents. Et à un moment donné, c'était plus... Voilà. Et c'est très difficile, mais je pense que ce courage-là, il est hyper important et il est hyper payant à la fin. Enfin, le fait d'être droit dans ses bottes, c'est aussi une sérénité folle, quoi.
Alors, tu nous l'as dit un petit peu, parce que enfin, je pense que c'est ça. Souvent, je pose la question à nos invités de savoir comment ils se ressourcent, comment ils vont trouver leur inspiration. Toi, je pense que c'est principalement par d'autres podcasts.
Non, mais c'est par des œuvres en général. Ça peut être par des podcasts.
L'art en général.
C'est beaucoup par la littérature. Ouais, ouais. L'art en général. Et donc par les mots des autres et par les regards des autres, en fait. Par exemple, il y a le festival de la photographie des rencontres d'Arles, qui ouais. est un festival dont on est partenaire chez Louis, et qui est un festival pour lequel j'ai une passion absolue, parce que c'est un festival de photos donc qui se tient à Arles tous les étés depuis des décennies, et qui mélange à la fois du photojournalisme et de la photo d'art, des choses très pointues et des choses très grand public, et c'est dans les lieux de la ville. Donc ça va être dans les cloîtres, dans les musées, dans le Monoprix, dans les anciennes halles SNCF. Et donc ces flâneries-là où on va rencontrer des artistes émergents sur des trucs hyper pointus, mais aussi, je sais pas, les travaux de Nan Goldin, ou aussi, moi c'est comme ça que j'ai découvert Meyerowitz, c'est comme ça que j'ai découvert Annie Leibovitz, c'est comme ça. Enfin, et j'ai commencé à y aller quand j'avais, je sais pas, 15 ans ou un truc comme ça. Et tous les étés, ce moment-là, c'est un moment absolument fondamental pour moi où j'ai l'impression vraiment de laver mon regard. Et toujours quand, ou je travaille trop, ou je suis pas en forme pour une raison X ou Y, de revenir à des œuvres pour me remplir, pour avoir le sentiment de comprendre des choses nouvelles et du coup de retrouver davantage d'appétit, c'est un truc absolument fondamental pour moi. Donc c'est voilà, séries, photos, podcasts, littérature et théâtre et art pictural, voir des expos et tout, c'est vraiment des choses
qui te nourrissent,
qui sont absolument fondamentales pour moi.
T'en as parlé tout à l'heure dans la première partie de ce podcast, on a parlé de l'IA qui arrive à reproduire des voix de manière assez bluffante. Comment t'imagines l'IA et les podcasts ?
Moi, je suis un peu agnostique sur les technologies, c'est-à-dire que j'ai pas du tout de pessimisme particulier ou d'angoisse particulière.
Ça peut être un enthousiasme.
Et j'ai pas non plus de Enfin, j'ai plutôt un enthousiasme a priori, mais pas complètement absolu. C'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait. Et donc, je trouve qu'il y a plein d'opportunités excitantes. L'IA pour l'IA, moi, je m'en fiche, mais on est en train de réfléchir chez Louis aux différentes manières dont on pourrait s'en servir, aussi bien dans la manière de travailler, donc avec des outils, qu'en termes de rendu. Et donc, là, on est en pleine réflexion. On teste des choses. Moi, je trouve ça à minima nécessaire de se pencher sur la question, enthousiasme ou pas enthousiasme, dans ce truc de faire ressentir le monde qui est notre credo chez Louis. Il y a l'idée de comprendre le monde, d'être en phase avec lui, de l'épouser. Et de toute façon, c'est mon métier de journaliste, d'être en phase avec la société. Donc, c'est un des usages qui est en train de bouleverser nos modes de fonctionnement, nos modes de consommation, et probablement nos modes de pensée ou notre rapport à l'information. Donc ça doit être pris en compte.
Ça sera peut-être la prochaine claque éditoriale.
On verra.
Wow. On a parlé du Covid rapidement tout à l'heure, qui a redistribué les cartes et qui a obligé à s'organiser différemment, qui a pu être une grosse claque pour tout le monde. Mais outre cette période un peu complexe et compliquée, pour toi, la plus grosse claque que tu as prise ?
Moi, je pense que le fait de sortir ou peut-être une nuit, ça a été, je ne sais pas si c'est une claque au sens où une claque, c'est quelque chose qu'on subit et que la sortie d'ou peut-être une nuit, c'est quelque chose que j'ai produit. Mais ça a rabattu pas mal de cartes. Et en ça, je pense que c'est ce qui fait événement dans ma vie récente de la manière la plus forte.
Quand tu dis rabattu quelques cartes, c'est-à-dire aussi, enfin, alors, d'un point de vue pro, parce que ça a mis une lumière sur un format, un sujet, etc., que vous avez traité, mais d'un point de vue perso aussi, j'imagine qu'il y a eu des effets dominos de cette série que tu as sortie.
Ouais. Oui, ça a rabattu pas mal de choses sur le plan personnel, mais ne serait-ce qu'en termes de compréhension de ce que l'écriture d'un projet peut produire sur soi, dans cette forme de médiation qu'est le langage dans le rapport au réel. C'est-à-dire, tu dis quelque chose, ça transforme le réel qui te transforme à son tour. Et ça, ça a été un apprentissage important. J'ai reçu énormément de témoignages, j'en reçois encore. À ce stade, je pense, des milliers de témoignages de gens qui m'ont raconté leur histoire.
Aussi.
Donc, puis le sentiment d'être utile, et puis la question de voilà, comment on continue de l'être ensuite, comment on fait son métier de journaliste au mieux sans devenir un espèce de réceptacle pour la douleur des gens. Ça m'a posé aussi plein de questions en termes d'écriture, de production, de travail en collectif, de voilà, enfin ça a interrogé énormément de choses.
Et pendant cette période où tu tournais, est-ce que ça a changé le rapport avec ta maman?
Je pense que le rapport aux gens, il change en permanence dans la mesure où on change nous-mêmes et tous les événements qu'on peut vivre sont, Proust dirait, des successions de mois. Donc en fait, le mois que j'étais au moment où j'ai tourné ou peut-être nuit, c'est pas exactement le même que celui que j'étais avant, celui que j'étais ensuite, celui que je suis aujourd'hui, et ma mère de la même manière. La personne qu'elle était avant de répondre à ce podcast, c'est pas exactement la même personne que celle qui était en train de répondre au podcast, ni celle qui se retrouve star d'un podcast où tout à coup des gens vont, je sais pas, mettre des commentaires, ah, elle est vraiment géniale, et ma mère qui n'a jamais eu confiance en elle ou qui s'est jamais trouvée très digne de, certainement pas digne d'être héroïne d'un récit, en tout cas, se dit tout à coup, moi je mérite que ma parole soit entendue. Donc elle, ça la change aussi. Donc comme on a changé toutes les deux, forcément, nos liens ont changé pendant le podcast, ils ont changé après, ils continuent de changer parce que, voilà, on n'est jamais exactement la même personne au fur et à mesure de notre trajectoire.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Charlotte, je te laisse le micro pour ta carte blanche.
Alors, ma carte blanche, c'est pas du tout moderne, mais j'ai lu pour la première fois, il y a quelques semaines ou mois, Le rire de la méduse d'Hélène Cixous. Hélène Cixous, c'est cette écrivaine et dramaturge qui a un peu plus de 80 ans aujourd'hui et qui écrit dans les années 70, donc ce texte, qui est un texte très court, qui lit, qui est plus édité, donc il faut trouver en PDF sur Internet, et dans lequel elle parle de ce que c'est l'écriture féminine. Et il a été un peu mal interprété par un certain nombre de personnes qui l'ont pris comme un texte essentialiste pour dire les femmes écrivent de manière Y et les hommes écrivent de manière X. Mais en fait, elle explique le lien entre le fait qu'on ait été privé de nos corps et le fait qu'on ait été privé de notre voix et du droit à la parole. Et elle fait le lien entre corps et langage et entre corps et parole. Et moi, c'est quelque chose qui me passionne absolument. Et après, ou peut-être une nuit, je me suis mise à me passionner pour cette question des désirs en me disant, maintenant que le féminisme a beaucoup abordé la question des violences, des dominations, etc., c'est quoi la prochaine frontière, et beaucoup plus joyeuse, je pense, est celle de la question des désirs. Et Manon Garcia, cette philosophe qui a écrit notamment « On n'est pas soumise, on le devient », en parle très très bien, et elle dit « C'est super de dire il faut écouter les femmes quand elles disent oui ou non, mais en fait, il faudrait que les femmes puissent exprimer leur désir et initier un désir ». Et je me suis dit « C'est fou, Hélène Cixous parle déjà de ça il y a quasiment 50 ans, et on en est encore là ». Et du coup, en tant que journaliste, en tant que personne qui écrit, en tant que lectrice, qu'actrice et en tant que femme et féministe, je trouve que c'est des questions absolument fondamentales qui disent beaucoup de choses de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Et on a produit chez Louis un podcast qui s'appelle Steamy pour une plateforme qui s'appelle Storytel, où c'est des nouvelles érotiques audio qui ont été écrites par des écrivaines. Il y a aussi bien Emma Becker que Marina Rollman, que Emmanuel Richard, Wendy Delorme, etc. Et cette question de laisser les femmes reprendre possession de leur corps, reprendre possession de leurs désirs et du coup reprendre aussi possession de leurs mots, non pas juste par un oui ou par un non, mais par la pleine production d'un langage nouveau. Je crois que c'est un des nouveaux enjeux contemporains qu'on va voir à l'œuvre de plus en plus. Et cette question de l'érotisme, elle se pose beaucoup aujourd'hui avec toutes les séries qu'on voit sur Netflix, un peu érotiques, etc., mais dans un truc encore un peu old school, à la Fifty Shades. Et je pense qu'il y a des nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont hyper enthousiasmantes. Donc voilà, mon coup de cœur, c'est ma carte blanche, c'est sur un texte d'il y a 50 ans, mais qui est incroyablement actuel et que je voudrais voir réédité. Donc ceci est un appel pour que ce texte soit réédité.
Si des éditeurs nous entendent,
voilà.
Écoutez la volonté de Charlotte. Charlotte, on arrive à la fin de cette émission. Si toi, tu avais dû choisir une femme entrepreneur que tu admires, tu aurais choisi qui ?
J'aurais choisi Rebecca M. Salem,
oui.
Qui est une de mes meilleures amies. J'ai dit que l'amitié était quelque chose de fondamental pour moi, qui est une militante féministe et qui est la créatrice des Glorieuses, qui est la plus grosse newsletter en France aujourd'hui. C'est une newsletter qui parle de féminisme, notamment par le prisme des arts. Et elle a construit un truc absolument formidable, avec en termes de nombre d'inscrits, c'est... je vais dire une connerie, mais je crois que c'est plus de 200 000 inscrits à sa newsletter. Je ne sais pas combien d'autres newsletters peuvent se targuer d'audience pareille en France. Et elle a monté ça toute seule. C'est une beaucoup plus petite structure que Louis, mais en termes de fonctionnement, c'est-à-dire de faire une entreprise économique économiquement viable, basée sur du contenu avec des questionnements intellectuels de fond. Je trouve ça formidable. Et par ailleurs, comme c'est une de mes meilleures amies, c'est quelqu'un avec qui j'échange énormément et qui me porte aussi beaucoup. C'est elle qui m'a trouvé le PDF d'Hélène Cixous sur Internet, par exemple, parce qu'elle est meilleure que moi en recherche. Et voilà, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Absolument, on a coproduit un podcast qui était son idée, qui s'appelle La Méthode, sur comment faire advenir une société féministe. Et donc, c'est un podcast en 6 épisodes, 6 points de méthode. Donc, c'est j'ai envie de dire reclaim, mais vraiment en revendiquant, on va dire, l'historicité, en réparant justement cette question des désirs. Enfin, voilà, c'est un point de méthode à chaque fois par la joie aussi, qui est un enjeu fondamental dans le féminisme. Donc, c'est 6 épisodes pendant lesquels elle explique comment faire advenir une société féministe. Et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast.
Eh bien, on mettra le lien et on va courir écouter ça. Pour finir, d'habitude, je le fais en intro, mais là, je ne l'ai pas fait. Donc, je me dis, on va finir cet épisode comme ça. Si tu devais choisir une musique pour symboliser ton aventure Louis Média, tu choisirais quoi ?
Je ne sais pas si la musique en tant que telle, elle symbolise l'aventure de Louis, mais je choisirais une musicienne qui s'appelle November Ultra, qui est une jeune chanteuse absolument formidable. Et il y a un jingle sonore chez Louis. Quand on lance n'importe quel podcast, il y a une petite voix qui fait « Louis ».
Oui.
Et c'est la voix de Nova, November Ultra, qui a gagné une victoire de la musique là récemment et qui est vraiment une artiste absolument formidable que j'adore.
Il y a une chanson d'elle que tu pourrais écouter ?
Soft and Tender. There's a million things I want, but there's one thing that I need. It's to see your face tonight when I'm dreaming. There's a million things I want, but you're the one thing that I need. On va pleurer, parce que aussi c'est déjà la fin de ce podcast. Takes a lot for me to say, but I want you.
Merci Charlotte pour ce moment et pour t'être livrée à notre micro. Et à bientôt.
À bientôt.